Coup de pouce, coup de cœur.
Bonjour à tous, pour ce nouveau podcast sur Radio Alzheimer, nous allons parler de la sortie d'un livre, un roman intitulé « Un lit dans l'océan » qui vient de sortir aux éditions Parole. Son auteur s'appelle André Cohen-Aknin, il est d'ailleurs avec nous par téléphone pour en parler depuis la Drôme où il habite. Alors dans ce roman, on suit le narrateur qui se trouve dans le sud de la France. Ce narrateur, c'est le fils de Juliette, une vieille femme juive d'Algérie, atteinte par la maladie d'Alzheimer. Alors André, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre livre ?
Oui, bonjour. C'est un livre qui est la rencontre de ces deux personnes, de ce fils qui n'a pas vu sa maman depuis assez longtemps, et qui, lorsqu'il la retrouve, il la voit dans cet état, avec ses phrases éclatées, ses mots, et il est tout à fait démuni. Et il sait pas trop quoi faire, mais néanmoins, il sent qu'il doit rester. Et il vient chaque jour, à la même heure, au même moment, il est proche d'elle, et il commence à raconter. Il raconte un peu les éléments de la vie de sa maman. Parce que ce qu'il a en tête, c'est de la faire sortir du brouillard dans lequel elle est émergée. Et donc il raconte un peu des éléments de son enfance, enfin de ce qu'il sait, de sa famille, de son travail de couturière, et puis de la vie et des drames qu'elle a eus. Alors, elle était rapatriée à Paris, d'Algérie à Paris, et il lui parle aussi un peu de la guerre et aussi des plaisirs qu'elle a eus. Le fait de danser le tango avec son mari, par exemple, avec mon père, et de la musique qu'elle connaissait. Et de fil en aiguille, il parle, et puis il se met lui-même à parler de lui. Et c'est ça qui est important, parce qu'il ne lui a jamais parlé de ses voyages. Il se dévoile un peu dans ce chemin, et il y a tous les mots qui sont là, qui, de temps en temps, il y a beaucoup de silence. Et à un moment donné, dans le roman, la mère sort de son silence. Mais elle y sort avec des onomatopées, des borborythmes, et puis après viennent des mots. Et après viennent des phrases éclatées. Et puis après, les mots restent en phonétique. Et un peu, c'est comme des paroles qui poussaient de la terre. Et ils sont là que le sens est dans le rythme, et il est avec elle. Il va même essayer de l'imiter, pour essayer d'échanger avec elle. Le narrateur écrira même sur son carnet des dialogues bien étranges entre cette femme et puis cet homme, et avec des questions très importantes, il lui demandera, mais est-ce que vivre ainsi, cloué dans un lit, sans bouger, est-ce que c'est vraiment vivre ? C'est sa question, voilà. Et au bout d'un moment, et ça, c'est les jours passent ainsi, et puis il sent quelque chose de très très important, et lorsqu'il parle de sa mère, il parle de la cuisine, de ses plats. Sa mère est une femme juive d'Algérie qui, je vais vous lire juste une phrase du roman, c'est une femme juive d'Algérie qui écrit, qui parle, qui prie avec ses plats. Chaque moment de l'année, il y a une symbolique. Alors lui, il va faire une chose qu'il n'a jamais faite. Il va essayer de faire un de ses plats. Bon, alors c'est pas un grand plat, c'est juste une soupe de pauvre. C'est une loubia, c'est une soupe qu'on trouve en Algérie. Et lui, il va essayer de cuisiner alors que enfant, il n'entrait même pas dans la cuisine parce que il était un garçon. Et on va s'apercevoir que la confection, la fabrication de ce plat est le fil de ce roman. Et à l'intérieur, ce qui est intéressant aussi, c'est que, et c'est ma manière à moi en tant qu'auteur, c'est de parler un peu du lien qu'il peut y avoir entre la culture juive et la culture musulmane, et parce qu'il, lui, va acheter ses ingrédients chez un épicier, chez Mourad, en fin de compte. Alors c'est un roman avec toute sa liberté, et il va y avoir la musique qui va apparaître. Je crois que la musique, comme la cuisine, ce sont une mémoire primaire. C'est des choses qui reviennent parce que sa maman, dans le livre, à un moment donné, elle va chanter. Elle va chanter, mais d'une façon maladroite. Mais le chant est là. Elle ne peut pas parler, mais elle peut chanter. Elle ne peut pas cuisiner, mais elle peut sentir les odeurs. Et c'est ça qui va l'amener, lui, à essayer de cuisiner parce qu'il trouve qu'ainsi, il va garder la tradition et il va pouvoir la transmettre. C'est un peu comme si elle écrivait un texte et lui, il le transmettait.
Alors, vous parlez de votre livre et vous dites que le fils, le narrateur, essaie de raviver la mémoire de sa mère en lui racontant comment elle dansait le tango avec mon père. C'est-à-dire oui. Que c'est vous, le narrateur ? Votre maman a été touchée par la maladie d'Alzheimer ?
Oui, oui. Et j'ai assisté à son évolution. Au début, ça allait parce qu'elle avait des moments conscients, de présence. Et puis, j'ai assisté à l'éclatement de ses mots, à ses moments de violence aussi. Et à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, j'ai noté ses mots. Parce que dans ce roman, ce sont vraiment ses mots, c'est les mots de maman que j'ai mis, que j'ai noté, que j'ai voulu. Je ne savais pas pourquoi j'allais écrire ce roman. Et puis, de plus en plus, j'ai trouvé que c'était aussi une façon de garder sa mémoire, de transmettre. Parce que la question qu'on se pose, c'est que ces vieilles personnes, ces vieilles femmes, avec toute la tradition et sa culture qu'elle avait, comment le transmettre pour pas que ce soit perdu. Alors, j'ai commencé à écrire un roman parce que je suis plus à l'aise dans un roman et j'y ai tout mis. En fin de compte, j'y ai mis non seulement ce qu'elle était enfant, pas seulement, attention, hein, pas seulement son passé, ce qu'elle a vécu. Dans ce roman, j'ai voulu rencontrer la mère et j'ai découvert la femme, ce qu'elle était. Et je l'ai faite, entre guillemets, le personnage, le narrateur, l'a fait réfléchir, l'a fait penser. Et c'est ça qui est intéressant, c'est se projeter en avant, comment découvrir ce qu'elle aurait pu être, ce qu'elle sera encore dans la mémoire des gens. Voilà, c'est ça pourquoi j'ai écrit ce bouquin.
Alors, j'ai cru comprendre, André, que vous avez également mené un projet dans un EHPAD où vous avez recueilli les paroles des résidents. Ça aussi, ça a dû vous faire réfléchir, en fait, cette immersion dans l'EHPAD.
Oui, oui, vraiment. Vraiment, parce que j'étais juste venu pour dire de la poésie. C'était il y a quelques années, j'étais juste venu dire ça, être près d'elles, les personnes, et j'ai dit de la poésie, et il s'est passé autre chose. C'est pas seulement le fait de dire de la poésie, de partir. Les personnes qui étaient là, le groupe de personnes, il y avait aussi des hommes, femmes, on a fait ça comme si c'était une soirée, une veillée. Et elles m'ont raconté les mondés, c'est-à-dire comment on écorce les noix. Elles m'ont raconté, elles ont chanté. Au fil des interventions, il y en a eu deux, enfin la deuxième, eh ben, je me suis surpris à chanter moi-même. Moi, qui chante faux, en fin de compte. J'ai compris que la musique et le chant étaient quelque chose de très important. Après la deuxième fois où je suis venu, où l'on m'a demandé, c'est de recueillir leurs paroles. Pour le carnaval de roman. Et recueillir la parole, c'était parce que le carnaval de roman est quelque chose d'assez important. Et recueillir la parole sur les éléments, les anecdotes, les coutumes, les repas. Et j'ai pu le faire parce que je les avais déjà rencontrés une première fois et j'ai pu les écouter. Et elles ont commencé à parler. Alors j'ai écrit les textes. Et ce qui était intéressant aussi, c'est que lorsque les textes étaient écrits, évidemment il y avait leur nom, je suis venu leur lire ce qu'elles avaient dit. Et c'est ça, l'échange à ce moment-là m'a permis que l'importance de ces choses, de ce qu'il restait, c'est un peu comme s'il transmettait. Et c'est d'autant plus intéressant pour un auteur, c'est que la famille à qui j'ai lu les textes après était surprise d'entendre ça. Elle me racontait des choses qu'elle n'avait pas rencontrées à ses propres enfants. J'ai découvert cette intimité. Mais une chose qu'il faut faire, c'est comme disait Léopold Sédar Senghor, le poète, c'est d'abord ouvrir les oreilles. Rester là, très longtemps. Et là, ces personnes-là m'ont appris après pour mon métier à rester là. Parfois, on n'a pas besoin de nourrir la conversation. On peut rester là longtemps. Les choses passent par le corps. Il faut un certain temps. Il y a des silences. Et après, ça vient. Ça repart. Et là, elles m'ont appris à faire ça. Et ça, je trouve ça formidable.
André, j'ai l'impression que voilà, tant la musique que la cuisine, ça aide en fait à, en quelque sorte, effectivement, transmettre, à passer la mémoire en fin de compte.
Oui, oui, et puis je le vis. Je le vis, j'ai découvert un peu la musique dans laquelle vivait maman. Alors d'abord, les femmes dans les EHPAD, il y a une femme qui vivait avec cette musique, l'autre qui a chanté de bénicité, l'autre qui a chanté un chant Le temps des cerises. Et chacun avait sa chanson. Et je me suis posé la question, quelle était la chanson de maman? Et maman, c'était sa chanson, c'était la chanson des couturières. Elle chantait une chanson de couturière. Tire, tire, tire les fils, ma fille, demain, demain, tu te maries. Et moi, j'ai compris que la chanson était quelque chose de vital, le son. Et c'est pour ça que dans le livre, à un moment donné, bon, je vous le dévoile, vous pourrez le lire, c'est à un moment donné, on parle beaucoup de musique. J'ai même, dans le roman, imaginé ma mère chanteuse pour lui donner une autre existence. Parce que comme elle connaissait, enfin, elle connaissait, elle dit, avoir connu Renette Loranaise, la diva qui chantait de la musique arabo-andalouse classique, qui était dans le même quartier. Donc j'ai imaginé, c'est aussi pour moi là, une manière de parler de cette culture arabo-andalouse qui était dans le Oran, puisque cette vieille dame juive d'Algérie, nous vivions à Oran, et Oran était une ville de musique, puisque dans les bistrots, on entendait de la musique, et j'ai rêvé, pas rêvé, j'ai écrit maman, j'ai imaginé maman chanteuse à un moment donné, et puis surtout, je me suis ouvert à cette musique, moi qui ne la connaissais pas, en fait, comme peu à peu. C'est un peu grâce aussi à aux éditions Parole, à Claude Fosse qui m'a accompagné et qui m'a permis de cheminer vers cette écriture, vers ce lien avec ma mère.
André, s'il devait y avoir un message dans votre roman, quel serait-il? C'est que, eh bien, malgré la maladie, les personnes malades sont toujours vivantes?
Absolument. Je crois que c'est ça. Je crois, malgré les gravages, les personnes sont vivantes. Alors, je sais, bien sûr, que les personnes qui s'en occupent au quotidien, il y a toute cette... c'est pas toujours facile, mais moi, je crois à ça. Je crois qu'il y a une lapalissade, mais tout le monde la connaît, c'est qu'il y a 5 minutes avant de mourir, elle était vivante. Il y a cette vie qui est là. Et je le vis ainsi. Je le vis ainsi, ce livre est aussi un acte d'amour, et dans ce livre, c'est comment libérer la vie là où elle est emprisonnée.
Très bien, et eh bien, je vous remercie beaucoup, André Cohen-Aknin. Je rappelle que vous êtes l'auteur du livre Un lit dans l'océan, ce roman qui vient de paraître aux éditions Parole. Quant à nous, chers auditeurs, vous pouvez écouter et réécouter toutes nos émissions en podcast sur le site internet et l'application de Radio Alzheimer. À bientôt.
Coup de pouce, coup de cœur.